Je voudrais quand même rappeler en quelques mots qui est Gilles Perrault, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous. Donc Gilles Perrault est né en 1931 et d'après les conversations que j'ai eues avec lui, puisque c'est quand même un ami proche, son traumatisme fondateur a vraiment été quand il a vu la débandade de l'armée française et des Français devant les troupes allemandes, en 1939, il avait 9 ans en 1940. Et puis, il a vu ses parents, qui étaient des résistants, accueillir des parachutistes anglais à la maison. Et il les a vus vivre dans la tension que pouvait créer le fait de participer à des réseaux de résistance. Donc la résistance est vraiment au cœur de son histoire, même si elle a pris des chemins divers. Il est vrai que il a d'une certaine manière, il a sans doute été frustré d'action, puisqu'il a été un grand admirateur de tous ces hommes d'action de la résistance, et c'est pour ça qu'il est il s'est engagé dans les parachutistes alors qu'il était jeune avocat. Mais il est revenu avec un bouquin qui a reçu le prix Henri Janson, qui a été un prix qui était décerné, qui était un prix qui était décerné par la gauche, puisque dans ce livre, il montrait comment, selon lui, l'entraînement des parachutistes était calqué sur le modèle d'entraînement des SS. Donc on ne peut pas franchement l'accuser de complicité ou de mollesse à l'égard des pratiques de l'armée française. Ensuite, il a quand même écrit un certain nombre de livres qui ont marqué l'époque. C'est bon là ? Ensuite, il a écrit un certain nombre de livres qui ont marqué l'époque. Certains d'entre vous se souviennent certainement du Pullover rouge, qui était un livre où il montrait ce qui a été très vraisemblablement une erreur judiciaire, en tout cas qui a été un crime qui consistait à décapiter un gamin, un très jeune homme, sous Giscard d'Estaing. Il ne faut jamais oublier, si un jour on doit peser au trébuchet les mérites des uns et des autres présidents, il ne faut jamais oublier que Mitterrand a été ministre de la Justice quand on a décapité Yvetot et que Giscard d'Estaing était ministre de la Justice quand on a décapité Ranucci, alors que Jacques Chirac, Jacques Chirac qu'on a de nombreuses raisons de ne pas aimer, et je les partage toutes, s'est toujours opposé à la peine de mort et a voté contre son propre parti pour l'abolition de la peine de mort. Je pense que les gens se jugent aussi sur leur exercice des droits, les présidents se jugent sur leur exercice des droits régaliens. Bref, cet aparté terminé, pour revenir à Gilles Perrault, il a été aussi l'auteur de notre ami le roi, qui lui a valu un contrat sur sa tête. Il a dû vivre protégé pendant plusieurs années. Il a dû vivre sous protection pendant plusieurs années. C'était un livre sur Hassan II, son système, le système de torture, de répression, etc. Il a beaucoup écrit sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans ce livre, Dictionnaire amoureux de la résistance, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que c'est effectivement un livre complètement subjectif. Comme le titre l'indique, c'est c'est une série inventé par un éditeur, Dictionnaire amoureux 2, et là c'est de la résistance, mais celui-là, il est particulièrement subjectif, et en même temps, il est extrêmement documenté, extrêmement nourri. je voudrais simplement... un autre livre, excusez-moi, j'oubliais un autre livre pour moi qui est deux livres fondamentaux de Gilles Perrault, c'est L'Orchestre Rouge, qui est un livre sur Léopold Trépaire, sur ce réseau d'espionnage au service des Soviétiques contre les nazis, qui est un livre fascinant, vraiment magnifique, et Un homme à part sur Henri Curiel. Qui a incarné à sa manière une forme de résistance après la guerre dans le soutien aux luttes du tiers-monde, qui fournissait des faux papiers dans toute une aux différentes luttes du tiers-monde et qui a refusé en revanche d'en fournir au groupe de violence armée se trouvait en Europe, mais qui voulait ce qu'on appelait terroristes, mais qui en tout cas a beaucoup soutenu les luttes anti-apartheid, etc., dans tout leur aspect clandestin, avec apprendre à manier des armes, à déjouer les filatures, ce genre de choses. Donc le réseau d'Henri Curiel, qui était un juif égyptien, un personnage de très grande culture, a joué un rôle très important dans les luttes pour la décolonisation. C'est ce qui lui a pas été pardonné, puisqu'il a finalement été assassiné, très vraisemblablement par des anciens de l'OAS, avec l'assentiment, disons les choses, des services secrets français. Enfin, dans une joint venture entre les services secrets français et les services israéliens. Pour conclure ma présentation de Gilles Perrault et de son bouquin, je vais vous lire une rubrique qui, la dernière fois que je l'ai lue, m'a arraché des larmes. Alors je vais essayer de vous la lire sans pleurer. Et après cette discussion, je passerai la parole à Frédéric Lordon, à David Dufresne et à Alain Damasio, et pour leur poser la question, peut-on penser qu'il y a une forme d'esprit de résistance qu'on trouve déjà dans la résistance et qui peut nous être encore utile aujourd'hui, et est-ce que vous le voyez à l'œuvre à l'heure actuelle, dans les mouvements des peuples, dans des mouvements comme celui qui a beaucoup occupé notre après-midi, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous lire ce passage qui me touche beaucoup. On dit toujours les années noires, les années sombres, et personne ne prétendra qu'elles étaient roses ou bleu pastel. Mais pour les résistants au moins, elles ne furent pas exemples de bonheur, au pluriel. Dans un texte superbe du savant dictionnaire historique de la résistance, Pierre Laborie évoque le singulier rapport des résistants à la mort. Il cite Brossolette qui, en 1943, avant de mourir aux mains de l'ennemi, écrivait de ses compagnons résistants. Ce sont des hommes à qui la mort avait été interdite sous peine capitale et qui ont dû d'abord la braver pour pouvoir la briguer. L'histoire dira un jour ce que chacun d'entre eux a dû accomplir pour retrouver un droit à la mort et à la gloire. Cette affirmation du droit à la mort, écrit Laborie, donne au sacrifice des résistants une de ses significations les plus fortes. La mort n'y est pas une mort sur ordre. Elle ne résulte pas du devoir d'obéissance ou d'un acte passif de discipline. Elle n'est pas non plus une forme de délivrance. Le défi de la mort inverse le rapport à la mort. Attendue, affrontée, jamais subie, la confrontation à la mort devient recherche d'un dépassement qui donne sens à la vie. Et Laborie de citer Georges Canguilhem, évoquant ceux qui ont préféré les raisons de vivre à la vie. Autrement dit, et plus platement, l'armistice signé par Pétain avait fait sortir les Français de la guerre. Et de sujets de l'histoire et de sujets de l'histoire, ils en étaient devenus les objets. En s'auto-désignant à la mort, par un engagement puni de la peine capitale, le résistant recouvrait du même droit le droit à la mort et réintégrait l'histoire. Aristocratie sans aucun doute. Camus constatait qu'une guerre classique tuait le meilleur et le pire, alors qu'avec la résistance, ce sont les meilleurs qui se sont désignés et qui sont tombés. Mais une aristocratie démocratique, constate justement Sartre. Il n'est pas d'armée au monde où l'on trouve pareille égalité de risque pour le soldat et le généralissime. Et c'est pourquoi la résistance fut une démocratie véritable. Pour le soldat comme pour le chef, même danger, même responsabilité, même absolue liberté dans la discipline. À ces hautes raisons s'ajoutaient, pour beaucoup de résistants, des gratifications psychologiques particulières qui leur apportaient du bonheur. Le goût de l'aventure, par exemple, y trouve un assouvissement que d'aucuns n'osaient plus espérer. François Faure s'ennuyait dans la vie. Fils d'Élie Faure, le célèbre historien de l'art, quelque peu écrasé par la personnalité de son père, montrant peu de goût pour les besognes de la vie routinière, il devint l'adjoint de Rémy à la tête de la confrérie Notre-Dame et vécut mille péripéties qui lui valurent une rude déportation. Il finit la guerre compagnon de la Libération. Son après-guerre fut difficile. Dominique Ponchardier, chef avec son frère Pierre du très efficace réseau Sosie, homme d'action s'il en fut, raconte dans son livre « Les pavés de l'enfer » un moment significatif. Assistant devant la gare de l'Est, au spectacle roboratif des Allemands s'enfuyant alors que les armées alliées déboulent sur Paris, cet homme, qui avait risqué 100 fois la mort, éprouve non point le soulagement de s'en être tiré, mais comme un sentiment de dépression à la perspective de la monotonie et de la tristesse des jours ordinaires à venir. Il y pimentera en écrivant la célèbre série Le Gorille et en reprenant du service contre l'OAS avec la création et le commandement des Barbouzes. Il est l'inventeur du mot. Dans ses mémoires de guerre, De Gaulle écrit que son appel du 18 juin le jetait hors de toutes les séries. À un niveau infiniment plus modeste, ne fût-ce pas le cas de tant de résistants qui, par la seule vertu de leur engagement, se trouvèrent précipités hors des séries et des routines. Dans ce voyage inopiné en terra incognita, nombreux furent ceux qui, sans le savoir, avaient rendez-vous avec eux-mêmes. C'est ce qui fait de la résistance une expérience sans précédent à cette échelle et la rend incomparable avec les machinales tueries des guerres classiques. Innombrables furent les résistants qui se découvrirent des potentialités dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. La résistance les révéla à eux-mêmes. Ami de Gilbert Reynaud, alias Rémy. Ainsi de Gilbert Reynaud, alias Rémy. Employé de la Banque de France, besogneux exploitant forestier au Gabon, producteur de cinéma soumis aux aléas du métier, ruiné par l'échec retentissant du Jacques d'Abel Gance, sauvé de la faillite par le hasard d'un billet de loterie gagnant, il rallie Londres dès juin 1940, devient l'un des premiers agents envoyés en France par Passy et démontre très vite des dons exceptionnels pour ce métier particulier. Chef du BCRA gaulliste, Passy dira de lui « Il fut le pilier essentiel de tout ce que je pus créer ». Hommage plus exceptionnel encore, surtout venant d'un homme dont le peu d'affection pour les Français était proverbial, Sir Claude Dansey, directeur adjoint de l'intelligence service, figure légendaire du renseignement britannique, reconnaîtra en Rémy le plus extraordinaire agent secret qu'il ait rencontré au cours de sa longue carrière. Combien de résistants ont vécu à leur échelle une telle révélation ? Combien de femmes, surtout, éprouvèrent dans le combat clandestin, même si à quelques exceptions près, Bertie Albrecht, Marie-Madeleine Fourcade, Lucie Aubrac, on les confina dans des tâches subalternes, qu'elles pouvaient accomplir autre chose que des travaux ménagers. Ces bonheurs expliquent sans doute l'allégresse qui couve à travers tous les récits de rescapés, alors même que drame et tragédie les ponctuent. On dira qu'il s'agit de rescapés. Mais les disparus eux-mêmes, face à une mort prochaine, voire imminente, nous ont laissé le témoignage du bonheur qu'ils trouvaient à résister. Voici Jacques Bingen, rejeton d'une famille juive aisée, beau-frère d'André Citroën. Brillant sujet, il dirige une société d'armement maritime fait partie du comité central des armateurs de France. En 1940, il a 32 ans. Blessé et décoré en juin, il rallie Londres dès juillet et la France libre lui confie raisonnablement la gestion de sa maigre marine marchande. Il veut se battre. En 1942, il obtient sa mutation au BCRA. Il s'y lie d'amitié avec Jean Moulin. Il ne cesse de manifester sa volonté d'aller sur le terrain. « Je trahirai l'idéal pour lequel j'ai quitté la France en juin 1940 », écrit-il à sa mère, « si je restais à Londres, assis dans un fauteuil jusqu'à la victoire. » Rarement un homme aura mis autant d'entêtement à s'autodésigner à la mort. Il est parachuté sur la France dans la nuit du 15 au 16 août 1943. Jean Moulin, qui souhaitait sa venue, est déjà mort. La résistance ploie sous les coups de la répression. Bingen se dépense sans compter pour tenter de réparer les dégâts. Le 14 avril 1944, sentant l'étau se resserrer sur lui, il rédige une lettre testament dont la tonalité ne relève pas du lugubre. Il veut que sa famille, ses amis et ses camarades de combat sachent bien qu'il a été prodigieusement heureux durant ces derniers 8 mois. Il ajoute « Il n'y a pas un homme sur 1000 qui pendant 8 jours de sa vie ait connu le bonheur inouï, le sentiment de plénitude que j'ai éprouvé en permanence depuis 8 mois. Aucune souffrance ne pourra jamais retirer l'acquis de la joie de vivre que je viens d'éprouver si longtemps. » Jacques Bingen est arrêté à Clermont-Ferrand le 13 mai 1944 à 5h du matin par 4 gestapistes. Emmené au siège de la Gestapo et laissé sous la surveillance de 2 agents ennemis, il profite de la brève sortie de l'un d'eux pour assommer l'autre et s'enfuir. Il court à toutes jambes dans la rue, poursuivi par le premier gardien, et aurait probablement réussi à filer si une passante, une Française, n'avait arrêté un camion allemand pour désigner le fuyard. Repris, Jacques Bingen avale sa pilule de cyanure et meurt. En écho à Jacques Bingen, comment ne pas évoquer Lucien Legros, l'un des 5 élèves du lycée parisien Buffon, entré en résistance à 16 ans, et qui, comme tant de ceux qui aimaient la vie à en mourir, écrivit à ses parents, à quelques heures de son exécution, le 8 février 1943, une lettre sublime de sérénité qui exprime le bonheur qu'il a éprouvé à résister. « Je vais être fusillé à 11 heures avec mes camarades. Nous allons mourir le sourire aux lèvres, car c'est pour le plus bel idéal. J'ai le sentiment à cette heure d'avoir vécu une vie complète. » Il avait 18 ans. Et comment ne pas s'éprouver bouleversé en lisant les derniers mots adressés à sa mère, qui sera gazée à Birkenau, par Marcel Reymann, combattant exemplaire du groupe Manouchian, l'un des 10 de la fiche rouge, avant d'être fusillé au Mont Valérien avec ses camarades, le 21 février 1944. Après lui avoir dit sa tendresse, il poursuit avec une stupéfiante allégresse. « Excuse-moi de ne pas t'écrire plus longuement, mais nous sommes tous tellement joyeux que cela m'est impossible quand je pense à la peine que tu ressens. Je ne puis te dire qu'une chose, c'est que je t'aime plus que tout au monde et que j'aurais voulu vivre rien que pour toi. Je t'aime, je t'embrasse, mais les mots ne peuvent dépeindre ce que je ressens. Je t'adore et vive la vie. » Naturellement, le bonheur n'exclut pas la peur, les angoisses, les tragédies individuelles et collectives, les longues fatigues et les désillusions. Dans sa lettre testament, Jacques Bingen disait de ses 8 mois de résistance sur le terrain, cette paradisiaque période d'enfer. C'était bien trouvé. Voilà, je vous ai préposé la question tout à l'heure.
Vous passez la seconde.
Je sais que c'est peut-être un peu dur de redémarrer après ça. Donc, c'était le passage que Jérôme Leroy avait choisi de vous lire, mais qu'il n'a pas pu vous lire ce soir.
Tiens. Bon, évidemment, c'est impossible de... d'enchaîner derrière. Moi, plutôt que répondre, je vais répondre par un texte qui s'appelle Sister résiste, parce que le mot résiste est un anagramme de sister et j'aimais bien jouer là-dessus. C'est un texte effectivement aussi sur la résistance ou ma façon d'essayer de transmettre la profonde vitalité ou en tout cas cet élan vital extrêmement, extrêmement puissant qu'on peut trouver à résister. Donc c'est de la fiction. C'est pas du tout dans le réel qu'on vient d'entendre. Mais j'y vais. Je vous le balance comme ça, un peu à l'arrache, un peu au slam. Hey, tu connais Sister Resist, l'intranquille? Mais c'est qui elle? Personne. Juste un mythe que je te fabrique brique à brique. Juste une clameur qui meurt et que tu peux remurmurer. Sister Resist a été de toutes les luttes souterraines et solaires. Elle est de toutes les surrections, les hauts faits, les combats. Tour à tour, à la pointe et à la poupe, Sister Resist, à la masse, en marge, debout, derrière ton dos parfois. Plus épaisse que ton ombre, plus aiguë que tes cris. Elle est revenue de tout, disent ceux qui n'ont jamais marché vers rien. Elle est revenue, oui, pour toi, pour nous, avec des armes liquides et du son pur. Et elle parle le babel de fable aussi bien que le furtivo, la flaque ou l'asphalte décadencé. Et quand elle danse à l'orthogonale des façades. Elle danse avec des idées de dehors, ourlées dans la matière, de dehors, nées du cœur physique des choses. Faudrait grandir en partant du milieu. Comme l'herbe de fissure, des sisters résistent. Se vivre comme kyste d'air qu'elle chante. Comme un noyau qui pousse vie et se dilate du dedans vers les autres. Du qui dévore la pêche molle du système. Faire fruit, dit-elle. Faire feu, faire mèche, faire fuir. Badaboum! Elle crie. Tohu! Zona désirée, zigzag, taz, tarnac, émoutier, squat, street art, casbah ou cabane, un archipel de toits libres, réinvesti ou circulé ou s'installer, commune, troc, volt, don, fab lab, hack attack, copyleft, rock natif, slam hâtif, comme ici. Tout ce qui prend souche en cellule et crève sa membrane, tout ce qui houle du ventre, même à 5 à 10 ouf et contamine parce que c'est beau et bruissant. Tout ce qui fait sang, sans le neuf, respire à frais, mais à sac, soulève, percer le ballon de l'intérieur de la vessie et filer avec l'air qui siffle. Sur la brèche ou sur le pont, se tenir. Ne pas se vouloir au-dessus ou en avant, à côté ou au-delà, mais entre. La plus belle des positions, go-between, entremetteuse, dans l'interstitiel et l'interlope, là où la vie passe, intercalée, là où l'eau, hop, et l'air, là où l'espace ne préexistait pas avant qu'on l'ouvre, comme on déchirerait une nappe de bitume sur 400 mètres, rien qu'avec une forêt de bras. Sister Resist n'a pas d'autre manifeste que ses pas et ses gestes, pas d'autre écriture que ses esquives et ses saltos, que ses courbes que dessine parfois une cursive. Ce qu'on sait de sa pratique a été compilé par des scribes de passage. C'est une bible à la diable, agrafée au fil de fer, que ceux qui marchent debout se jettent au thorax comme un frisbee carré. Voici les copeaux que j'ai pu en gratter, piocher dans des pages taguées au bic qui se sont arrachées quand j'ai tourné la chose. Ça disait ça. Face au règne des miradors et des radars, l'invisibilité, qui est un art martial. Opposé au réseau tactique des brutes, des routes et des rondes, le faisceau tactile des luttes, des doutes et des frondes. Face aux interfaces et aux filtres, couper court, court-circuiter, chercher le rapport direct, la chaleur, les restes de corps à corps, le vieux miracle du face-à-face. Face à l'argent, s'installer dans l'inéchangeable, le sacrifice, l'amour, le don, le hors-de-prix, étendre le territoire affectif de la gratuité. Face au fonctionnel et au performatif, le bug, le hack, le sabotage. L'errorisme, cette forme aboutie du terrorisme. Face au contrôle continu de nos flux, être et devenir furtif. Et enfin, face à la fatigue, faire hausse férocement.
Non, j'ai été un peu idiot parce que si j'avais su qu'on pouvait amener des choses à lire, j'en aurais amené une. Et en particulier, pour vous lire des extraits de L'hommage à Jean Cavaillès, résistant, prononcé par Georges Canguilhem, qui est d'une force poignante à peu près équivalente à celle du texte que tu as lu, Serge, et qui par là offre les mêmes difficultés à la lecture. Bon, ça sera pour une autre fois, le cas échéant, et là, je vais revenir au sujet qui nous a été proposé. Moi, je suis très content hein, d'intervenir avec David et Alain, pas seulement pour l'excellence de la compagnie, mais parce que ils vont se retrouver aussi au pied du mur. Il y a les questions qui était beaucoup plus filoute hein, dans la formulation première que Serge nous avait donnée, parce que là il nous a fait un truc un peu, vous voyez, fluide, goulayant, etc. Alors qu'à l'origine la formulation c'était résistance R majuscule singulier, résistance R minuscule pluriel, vous avez 4 heures. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la question de cours pour la grecque de gauchisme. Bon, alors, je veux dire, c'était dégueulasse, parce que eux, ils avaient carte blanche, et moi, je me retrouvais en prépa, quoi. Donc, il va falloir vous sortir les mains de dessous les fesses, hein, les gars. Hein. Et toi, tu vas pas t'en tirer juste. Bon. Alors, je vais pas répondre tout de suite, je vais les laisser déblayer le terrain. Mais l'autre raison pour laquelle je suis content d'intervenir avec eux, c'est que j'aimerais bien prolonger en fait leur discussion et la prolonger au travers d'une anecdote qui m'est revenue en vous écoutant. On était 4 dans une voiture en revenant de Beaumont-sur-Oise. Et dans la voiture, il y avait Antoine, qui est un des amputés de la main. C'est un gars dont on a vu pas mal le visage. Il s'est fait faire une prothèse, point fermé, ce qui est un parti pris. Et on parlait comme ça dans la voiture. Il nous disait, mais voilà, lui, visiblement, ce garçon est doté d'un dynamisme psychique extraordinaire parce que en, je sais pas, 5-6 mois, il a récupéré, il est reparti, etc. Il lâche pas le morceau. Bon, et il nous parlait d'un autre garçon qu'il avait rencontré, qui lui s'est fait, je sais pas s'il a perdu une main ou un œil. Hein. Et puis je crois qu'en plus, il passait par là. Je veux dire, il n'était pas dans la manif, etc. Boum. Et lui est détruit. Visiblement détruit, et Antoine anime une espèce de réseau des mutilés. Hein. Et il avait été contacté par la copine de ce gars qui lui disait, mais il est en train de s'enfoncer, je ne sais pas quoi faire, as-tu des conseils à me donner, etc. Et Antoine lui disait, il faut lui parler beaucoup, parce qu'il refusait tout, hein, je veux dire, d'aller chez un psy, le machin, tout. Et évidemment, ça n'allait pas bien. Et sa copine elle-même commençait à se sentir assez mal également. Donc on parlait de tout ça, et Magali, qui est là, qui prend les photos, était dans la voiture, et à un moment, elle a dit, mais vous réalisez le type de conversation que nous sommes en train d'avoir ? Et c'est vrai, je veux dire, on n'avait pas fait attention à ça. C'est un truc qui est absolument, c'est terrible tellement c'est pernicieux, vous voyez. Nos normes de tolérance ne cessent de se déplacer graduellement. Et c'est pas que nous considérons que la chose est normale, mais nous avons presque perdu l'habitude de la regarder comme elle devrait l'être, c'est-à-dire comme une espèce de monstruosité. Donc là, il y a vraiment un problème. Cette réflexion nous a tous marqués et moi, en rentrant, je me suis dit, mais c'est vrai quand même, là, nous sommes en train de changer de régime. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et le changement de régime, si vous voulez, on le voit pas avec les grosses choses qui arrivent à la surface des médias. C'est pas seulement les mains arrachées, les yeux crevés, etc., dont on a fini par parler, parce que, je veux dire, à force de... Bon, lui, il en sait quelque chose, hein, à force de démarrer les médias à la manivelle, etc. Mais c'est ce fourmillement de petites choses qui, parce que petites, ne font jamais l'objet de récits dans les médias. Alors, typiquement, celle qui a été racontée tout à l'heure. Vous voyez le gilet jaune gardé à vue. Et le mec qui lui dit, mais elle est belle, ta fille ? Vous voyez, ce genre de dégueulasserie, enfin, je veux dire, proprement inouïe. Et ben, des petites choses comme ça, il y en a des centaines, il y en a des milliers. C'est la torgnole donnée au passage, c'est les insultes, c'est la bousculade gratuite, etc., etc. Et de cela, jamais, évidemment, les médias ne parlent. Évidemment, c'est des petits points, mais tous les petits points, ça fait un tableau à la fin. C'est une école bien connue, n'est-ce pas ? Bon, et alors, effectivement, sommes-nous en train de changer de régime ? Et puis là, je me suis repris et je me suis dit, mais Il y a deux interprétations possibles. Soit nous sommes en train de changer de régime, soit le régime, en réalité, est en train de tomber le masque et de révéler sa vérité profonde. C'est quoi le régime ? C'est la chose qu'on appelle, avec des guillemets, la démocratie. N'est-ce pas ? Alors, dans le système d'opposition pour débiles légers qui a fréquemment cours dans les éditoriaux du Monde, de Libération, de l'Obs, etc., vous avez en général le raisonnement logique suivant, fondé sur les élections de 2017, c'est Le Pen pas démocratique, Macron pas Le Pen, ergo Macron démocratique. Vous voyez, c'est le syllogisme du bourricot, qui est en général salué par un hiant triomphal. Voilà. Et ça tient toujours, hein, cette connerie, hein, dans leur tête. C'est ça qui est extravagant. Or, la chose qu'il va falloir commencer à dire sérieusement, c'est que la démocratie est tout ce qu'on veut sauf de la démocratie. Alors, vous entendrez à chaque fois quand il y a les guillemets, quand ils y sont pas. La démocratie se donne dans ces têtes-là pour l'honnête arbitre formel qui va départager les différents contenus politiques substantiels en compétition libre. Mais c'est une fable pour enfants qui ont le goût du merveilleux ou qui croient encore aux fées. Il n'en est rien. En réalité, il y a un implicite ou un inavouable de la démocratie qui consiste en ceci, qu'il y a un contenu toujours déjà élu. Et que la démocratie, c'est cette espèce de jeu à la con qui organise des variations secondaires autour de ce contenu toujours déjà élu. Qu'est-ce que c'est ? C'est le primat de l'ordre propriétaire. Voilà. Alors, si vous avez admis cette prémisse, vous pouvez jouer à la différence au second degré. Mais sitôt que vous remettez en cause la prémisse, alors vous allez voir la gueule de la démocratie. C'est celle que nous connaissons actuellement. Alors, changement de régime, prolongement du même régime une fois les apparences ôtées, je vous laisse le choix. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'objection qui est périodiquement faite sur le thème « les gilets jaunes », après tant d'autres dans l'histoire d'ailleurs, hein, puisqu'évidemment c'est un air connu qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est vieux comme 1848, c'est pas difficile. Hein. C'est-à-dire, l'objection qui consiste à renvoyer aux gilets jaunes l'infamie du renversement des institutions de la démocratie est un mensonge. C'est tout.
Moi, je n'ai que le bac. Alors, quand on me dit que j'ai 4 heures pour réfléchir à un truc, je dis, je vais faire formation professionnelle, je vais aller ailleurs. Alors, écoutez, d'abord, je dois vous dire que, bon, voilà, je suis très heureux d'être là, tout ça, mais je suis extrêmement touché parce que moi, il y a 35 ans, il y a un mec qui m'a peut-être appris la résistance, c'était Gilles Perrault. J'étais donc, avant d'être bachelier, ça a été difficile, j'étais lycéen et j'ai donc fait ce qu'on appelait un exposé sur le pullover rouge et ça a changé ma vie. Donc je ne sais pas si quelqu'un transmettra ça à Gilles, mais voilà, je ne l'ai jamais vu physiquement. Mais voilà, sa figure est là et sa figure de résistant pour moi, c'est-à-dire résistant à l'ordre des choses, au discours convenu, etc. Voilà, ça toujours ça me guide vraiment. Donc l'Orchestre Rouge évidemment, etc., etc. Donc c'était la raison pour laquelle j'étais très fier d'être à côté de lui, mais il n'est pas là. Et puis alors là, j'ai niveau au-dessus, mais il faut que je réfléchisse. Alors, à l'inverse de toi, Serge, et m'en voulez pas pour les gens qui habitent ici, le plateau, je sais que vous êtes extrêmement marqués par la résistance, et c'est normal, et c'est bien, et c'est formidable. Moi, je le suis moins que vous, je vous le dis franchement. Ça me parle moins que vous. Évidemment, j'ai un immense respect, mais ça n'est pas quelque chose à laquelle je pense régulièrement. Bizarrement, je pense plus à ce que la résistance a laissé ensuite, après la guerre, le Conseil national de la résistance, avec des idéaux sociaux, dont je sais vaguement quelques trucs bac B, voilà, donc économique et social. Donc il me reste 2-3 trucs, mais je les ai pas oubliés. Et j'ai l'impression que ces idéaux sont totalement piétinés. Et pour moi, si on devait rendre hommage à la résistance et rendre hommage à sa flamme, c'est surtout à ce qu'elle voulait nous laisser. Son combat est merveilleux, mais je dirais, c'est deux autres générations, c'est très loin de moi. Mais je le dis vraiment avec beaucoup finalement d'humilité et de respect, mais voilà. Et j'ai l'impression que depuis les années 80, en fait, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, en réalité, le piétinement, il est continuel. Pour ce qui m'intéresse particulièrement, les choses policières, 1984, la loi sur la sûreté, sécurité publique, c'est le moment où la gauche, on va dire, parlementaire, change de cap. Et met le sécuritaire, avec tout ce que ça... au premier plan. Et depuis, on ne cesse de constater le piétinement des idéaux que la résistance nous a transmis. Et ce qui est très difficile aujourd'hui en 2019, ce qui a été très difficile pendant l'histoire des Gilets jaunes qui continuent, donc ce qui est très difficile depuis, c'est de n'avoir quasiment aucun relais. Un abandon total de tous, des avocats, des associations, des partis, des ONG. Alors évidemment qu'il y a des militants, et je sais que par exemple sur les violences policières, il y a des comités qui se créent, etc. Mais je veux dire que c'est tellement faible par rapport à ce que ça devrait être. Et là, je me dis, on est totalement indigne de ce qu'ils nous ont laissé. Vous avez 3 heures.
Bien. Bon, c'est passionnant parce que moi, ça éveille énormément de choses en moi. Moi, je suis vraiment entré en écriture par résistance, pour la résistance. Et à un moment donné où j'avais eu un déclic totalement majeur, en tout cas pour moi, qui était ce post-scriptum sur les sociétés de contrôle de Gilles Deleuze. C'est-à-dire ce moment où j'arrive à 20 ans... Et je fais une école de commerce à ce moment-là. J'ai le sentiment, normalement, on m'explique que je vais être l'élite de la France et j'ai le sentiment absolu d'être dans une aliénation totale. Et je veux résister à cette aliénation. Je veux trouver une forme d'émancipation et je comprends pas contre quoi je dois résister ou plutôt quelles sont les forces qui me contraignent. Et arrive ce texte de Deleuze qui me dit, mon petit gars, t'es plus en régime disciplinaire, ce qui domine, c'est plus l'armée, la police, la justice, c'est même plus les multinationales comme pouvoir pyramidal, etc. C'est une société de contrôle. Bon. Et je fais un bouquin entier là-dessus qui s'appelle La zone du dehors. Et pendant longtemps, voilà, je suis structuré mentalement par les quelques trucs que j'ai lus. Donc, je suis structuré par Surveiller et punir de Foucault. Et Foucault, il explique très, très clairement qu'il y a, voilà, au niveau du Moyen-Âge, tu as un régime qui s'appelle le régime féodal dans lequel il y a un droit de vie ou de mort sur les serfs. Mais qu'en même temps, les paysans, ils sont libres, en gros, de s'organiser ou d'épouser les mœurs qu'ils souhaitent. On va pas surveiller leurs mœurs. On prélève une dîme de 10%. Mais il y a quand même ce droit de vie ou de mort. Et c'est ce pouvoir féodal. Bon, il dit après, ça mute. On arrive au 18e, 19e siècle. On range dans ce fameux régime disciplinaire avec les milieux d'enfermement hein, qui décrit magnifiquement donc les casernes, l'école, la prison, les hôpitaux, etc. Et il t'explique qu'on exerce un pouvoir anatomopolitique sur les gens avec dans un espace et un temps donné et que ce pouvoir de contrainte très fort qui s'exerce sur les corps va générer en face une résistance très particulière, enfin très évidente, qui est la résistance des ouvriers, qui est la résistance des syndicats. C'est-à-dire que comme on mobilise des masses pour exercer un certain nombre de tâches, ces masses elles-mêmes peuvent contre-effectuer cette domination et se révolter et atteindre une certaine forme d'émancipation. Donc moi, j'étais resté bloqué à ça et puis après, je me rends compte qu'avec, grâce à Deleuze, on rentre dans un nouveau régime. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que moi qui ai énormément bossé sur société de contrôle, société de trace, qui est traqué comment l'arrivée dans le numérique a développé un monde de surveillance généralisée, d'entre-surveillance généralisée, d'inter-contrôle, d'intra-contrôle, d'auto-contrôle, etc., qui ai bossé énormément sur tous ces thèmes dans mes bouquins, je me rends compte avec l'arrivée de Macron qu'on a en fait un phénomène de régression. Mais qui n'est pas une régression, parce que Foucault le dit dès le début, enfin c'est plutôt Deleuze qui le dit dès le début, il dit c'est pas que les régimes féodaux, disciplinaires et de contrôle se suivent historiquement, oui, d'un point de vue de la dominante sociétale, ils se suivent, mais en réalité ils sont coextensifs. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des portions de régimes féodaux qui continuent à coexister dans notre société. C'est typiquement la façon dont Bernard Arnault va vivre, dont les milliardaires vont s'enfermer, vont être dans des sortes de conforteresses particulières, vont avoir tout un ensemble de serres. Donc ce régime féodal se maintient, le régime disciplinaire aussi, le régime de contrôle aussi. Mais à des moments, il y a tel ou tel régime qui se met en place. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de normosphère, j'appelle ça. Tant qu'on reste à l'intérieur de la sphère, qu'on va pas toucher les parois, il se passe rien, on revient pas au disciplinaire. Et dès qu'on finit par toucher les parois, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes ont vraiment fait peur à ce pouvoir-là. On a été touché les parois de la sphère, de la normosphère. Et là, se met en marche le régime disciplinaire. Et on n'y est pas prêt. Donc moi, c'est pas qu'on est indigne de l'époque. C'est qu'on est simplement pas éduqué, pas formé. On n'a pas l'habitus de la répression. Voilà. Moi, je suis né en 1969. J'ai 50 ans. Je n'ai connu qu'un empire, j'ai envie de dire pacifique, bien sûr oppressant, bien sûr contrôlant, bien sûr surveillant, bien sûr vicieux, insidieux, sournois, tout ce que vous voulez, mais des procédures extrêmement subtiles de manipulation, de contrôle. Mais j'ai pas connu la répression, d'accord ? Donc je suis pas prêt. Donc je suis pas capable aujourd'hui encore de mobiliser les énergies nécessitant de contrer la répression. Et moi, on n'a pas parlé d'un gros sujet, je trouve, dans la violence tout à l'heure, qui est pour moi extrêmement important, c'est que quand tu rentres dans un régime de répression comme c'est le nôtre actuellement, il faut se rendre compte que le terme de violence est complètement manipulé contre nous, c'est-à-dire qu'on nous dénie tout droit à la violence, d'accord ? C'est-à-dire que nous, on subit une violence policière, donc sur les corps extrêmement forte, qui est considérée comme du maintien de l'ordre, pas du tout comme une violence. Et paradoxalement, la violence que la plupart des black blocs peuvent exercer, etc., s'exerce simplement sur des biens. C'est-à-dire qu'on casse des vitrines, on casse des... Voilà, des banques, on brûle le Phuket, etc. Mais il n'y a pas de violence, je veux dire, sur des personnes. Or, c'est cette violence sur les biens qui est considérée, alors c'est peut-être justement cet empire de la propriété, en tout cas ce droit de propriété qui est au fondement de notre pseudo-démocratie qui fait ça, mais c'est considéré comme la violence la plus atroce qu'on puisse exercer, quoi, tu vois. Alors que pour moi, c'est complètement dérisoire parce qu'on s'attaque à l'inerte. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une façon de décrédibiliser les actions violentes et on est l'héritage de ça, même au niveau militant. C'est-à-dire qu'on prône la non-violence, on prône le pacifisme, on prône la désobéissance civile et on se dit, à force de manifestations, à force de pétitions, à force de tribunes, à force de textes, de romans, de tout ce que vous voulez, de pièces de théâtre, on va réussir à renverser ce régime de la répression. Et ben, je crois qu'à des moments de l'histoire, ça ne suffit pas. Et qu'il faut réinvestir le champ de la violence. Et comme disait très bien un sociologue qui s'appelle Castel, il disait, les violences, c'est pas forcément sauvage. Il y a des violences hautement civilisées, il y a des violences hautement intelligentes, il y a des violences hautement ciblées qu'il faut certainement remettre en marche pour pouvoir résister à cette époque de répression dans laquelle on entre aujourd'hui. Voilà.
Quand même, je suis frappé que tu opposes. C'est une opposition que je comprends très bien, souci de contrôle. Et puis, on entre dans une société de contrôle et donc la résistance serait un concept qui serait moins opérant. Mais en réalité, quand je vois je crois que c'est dans la zone du Nord, il me semble que les gens qui s'organisent. C'est un peu le modèle de la résistance finalement. C'est une forme de résistance. Et aujourd'hui, tous les gens qui partagent ton point de vue, c'est-à-dire que la question fondamentale, c'est pas celle de la violence ou de la non-violence, puisque les immenses quantités de violence sont du côté de l'ordre dominant et non pas de notre côté à nous. Mais la question essentielle, c'est celle du respect ou non de la légalité dite démocratique. C'est-à-dire que quand on fait une manif sans autorisation, on est déjà passible des tribunaux aujourd'hui, quasiment. Donc, cette question-là, tous ceux qui l'abordent de manière un peu sérieuse, à un moment donné ou à un autre, se posent la question de comment devenir furtif, comme toi tu le dis, c'est-à-dire de chercher des formes de résistance aussi. Évidemment, il serait obscène de nous comparer comme le faisaient les Mao dans les années 70, de nous comparer aux résistants qui, eux, étaient assurés de mourir sous la torture ou de mourir dans des camps de concentration ou d'être fusillés. Nous, on n'en est pas là, on n'en est vraiment pas là. Il faut bien le reconnaître, même si il y a un palier décisif qui a été franchi, comme vous l'avez très bien expliqué cet après-midi. Mais quand même, je suis frappé du fait qu'on se retrouve presque contraint à adopter des formes de clandestinité, c'est-à-dire spontanément, on n'a pas trop envie de. Si on doit faire une manif non déclarée, il vaut mieux éviter de le proclamer, d'en parler au téléphone, etc. C'est quand même, il y a quand même quelque chose là qui serait peut-être intéressant de creuser.
Ouais, je réponds juste à ça parce que c'est vraiment au cœur d'effectivement de ce que j'essaie de faire dans mes romans, mais c'est clair que le niveau de contrôle atteint qui vient d'un couplage avec le numérique et avec des technologies opto-électroniques extrêmement déployées, rien que l'invention du smartphone qui est un outil, donc comme vous le savez, de géocalisation absolument d'une précision absolument terrifiante, ça fait qu'on a un habitus, vraiment là comme tu le dis, je pense, on a un habitus de résistance sans même s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux difficilement aller en manifestation sans mettre un masque, sans se masquer, sans essayer de pas être pris par les caméras biométriques. Et si t'es pas pris par les caméras biométriques, eh ben tu vas peut-être être pris par l'ADN. Tu dois te battre pour ne pas avoir ton ADN prélevé. Et maintenant, j'ai appris tout à l'heure que a priori, on peut encore forcer maintenant cette prise d'ADN et te faire rentrer dans les fichiers. Il est évident que les degrés de liberté dont bénéficiaient encore nos parents dans les années 70 sur l'anonymat, sur la faculté à être furtif, justement, à être clandestin, ont complètement été écrasés. Et dans un monde de visibilité, dans un panoptique complètement délirant, quoi. Et que, du coup, pour résister à ça, la position furtive, hein, moi, mon livre s'appelle Les Furtifs, hein, je pense que vous le savez, le titre était là justement pour dire à la société de traces quelle est la seule forme de résistance évidente à laquelle on doit essayer d'aboutir, qu'on doit essayer d'approvoiser, c'est effectivement la furtivité. Et la furtivité, c'est tout un travail à la fois numérique, de pratique, mais qui demande un boulot colossal. Il ne faut pas utiliser sa carte bleue, il faut tirer du liquide, il ne faut pas avoir de smartphone, il faut crypter tout ce que tu fais sur les réseaux, il faut crypter tes mails. C'est-à-dire que ça exige un boulot qui peut être comparable peut-être au travail qu'ont dû effectuer les résistants sous la domination nazie. Mais sauf que nous, c'est au quotidien et de façon irrémédiablement triste, quoi, en tout cas extrêmement contraignante. Donc effectivement, c'est la position de furtivité me paraît être une des pistes de la résistance aujourd'hui, mais c'est plus facile à dire et à dire dans une fiction qu'à pratiquer dans le réel.
Je voudrais apporter un bémol. Évidemment, tout ce que Alain dit sur la société de contrôle, de surveillance, bon, c'est très lumineux, c'est très juste. Et en même temps, comme dirait l'autre, pardon, excusez-moi, ça sort de son corps. Et de la même façon, le même objet diabolique, le smartphone, c'est ce qui a fait ces derniers mois un objet de résistance. Car tous ces gens qui, samedi après samedi, lèvent leur smartphone sur la police ou contre la police. Je veux dire que c'est dingue. C'est devenu, alors que c'est autorisé par la loi, on a le droit de filmer un policier dans l'exercice de sa fonction, c'est devenu un acte de résistance. Et c'est un acte de résistance qui s'est fait, alors il est tout petit, mais il est important parce que c'est lui qui fait le tableau. Ça fait partie des petites touches. Et cette idée, ce que j'ai développé tout à l'heure sur l'idée que aujourd'hui on peut non seulement filmer mais aussi diffuser en même temps, c'est le même outil, c'est celui qui nous a servi, qui peut aussi parfois être un outil de résistance, mais pour le coup furtive, c'est-à-dire qu'évidemment ça va pas durer très longtemps, mais le même objet peut avoir cette idée-là. Et en fait, dans l'intitulé, je trouve que le plus important, c'est le S de résistance avec un petit R. Car effectivement, l'éparpillement dans lequel on est nous oblige à réfléchir chacun de notre côté à qu'est-ce qu'on peut faire, à faire partie du petit S. Et bien pour certains, c'est lever le smartphone, c'est de diffuser, d'autres, c'est d'écrire, etc.
Bon, alors je vais reprendre moi aussi le sujet, hein, puisque là, il n'y a plus moyen d'y échapper. Il y a résistance, résistanceus. Il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture symbolique et une lecture stratégique. La lecture symbolique, je ne m'y attarde pas. D'ailleurs, Serge en a dit quelques mots. Je sais, les gens, pour se donner du cœur à l'ouvrage, aiment à scander ensemble résistance, résistance, etc. Ah, bon, pourquoi pas. J'en sais, effectivement, il faut comment dirais-je, il reste de la distance hein, vis-à-vis de qui nous sépare de ce que ça a été la résistance avec un grand R au singulier. Maintenant, il y a la lecture stratégique. Alors, il faut s'entendre, résistance au pluriel. Bon, je prends le risque de contrarier l'esprit des lieux. Moi, résistance au pluriel, sauf dans une configuration où une myriade de petites résistances cherche sa propre agglomération pour former une grande résistance, mais sans majuscule, ça me va. Mais sinon, si résistance au pluriel, c'est compris comme une simple prolifération d'expérimentation, de défection, de désertion, de soustraction, etc., je pense qu'il y a là une impasse stratégique pour la raison suivante, c'est que de deux choses l'une, ces expérimentations qui, entendez-moi bien, hein, sont d'une nécessité incontestable. Je dis simplement qu'elles ne peuvent pas suffire pour la raison suivante. De deux choses l'une, ou ces expérimentations demeureront insignifiantes, et tautologiquement elles demeureront insignifiantes, ou elles ne le seront plus, et nous savons maintenant d'expérience que le pouvoir les écrasera impitoyablement. Nous le savons après ce qui est arrivé à la ZAD, nous le savions déjà avec ce qui était arrivé à l'IP en 1973, qui avait été tout autant écrasé, quoique par d'autres moyens. Donc moi, ce que je crois, c'est, et alors là, j'ai un désaccord avec toi, Alain, parce que je me souviens d'avoir lu dans un entretien que tu faisais, oui, on ne va pas renverser le capitalisme, mais on va faire plein de petits îlots qui se soustrairont. Et je pense que ça ne fait pas le compte. Ça ne fait pas le compte pour plein de raisons. La première est celle que j'ai dite. La deuxième, c'est que bon, bah, y aurait des îlots, puis il y aurait tous les autres qui resteraient dans la division du travail capitaliste. Et puis, bah, ce n'est pas une affaire, quoi. Parce que même dans une ZAD, une commune, ce que vous voulez, quand bien même on essaye de réduire son exposition à la division du travail capitaliste, on ne peut pas l'annuler complètement. Je veux dire, je ne parle même pas d'avoir un ordinateur, un téléphone, etc. Même un stylo, qui est un objet du dernier commun, suppose, je veux dire, mais si vous dépliez toute la division du travail qui a engendré cet objet élémentaire, tout le capitalisme est replié là-dedans. C'est vraiment très compliqué. Hein. Et pour cause, le capitalisme a pris en otage la totalité, ou presque, non, mais une immense partie de nos conditions d'existence matérielle. Otage nous sommes. Et puis voilà. Le dernier argument, c'est... Bon, alors, bah, voilà, il y a la question climatique hein, qui est en train de nous tomber dessus. Je veux dire, il est bien clair que les capitalistes bousilleront la planète jusqu'au dernier euro à en extraire. Là, il ne faut pas nourrir d'illusions, n'est-ce pas ? Ouais, je crois. On en rediscutera, hein, mais je crois. Maintenant, s'il y a un travail politique à faire, me semble-t-il, c'est le travail de la conséquence. Il se trouve que l'affect climatique est en train de prendre dans la société. À certains égards, moi, ça me dégoûte. Je vais vous dire pourquoi. Hein. On a toléré pendant des décennies le massacre des hommes. Ça allait. La classe bourgeoise culturelle, ça allait. Ah, alors maintenant, je veux dire, se baigner dans la mer au plastique, les températures qui montent, peut-être la villa en bord de mer qui va... La bronchiolite des gosses, tout ça, ça commence à faire chier le troisième arrondissement, hein, n'est-ce pas ? Et donc, alors là, le climat, ça devient une question. Bon, alors, je referme la parenthèse et je regarde la chose avec un réalisme de Colin Froy. Il y a une force qui est en train de se constituer autour de ce thème ? Ainsi soit-il. On l'apprend et on regarde ses pouvoirs de traction qui pourraient, me semble-t-il, aller croissant. De tout ça, qu'est-ce qu'il ressort ? C'est que il ne s'agit pas de se rendre furtif pour se soustraire au capitalisme. Il s'agit de se rendre furtif à titre instrumental pour s'organiser, tactique, pour s'organiser afin de renverser le capitalisme. Je veux dire, vous voyez, donc c'est pas du tout le même horizon stratégique. Je veux dire, tant que la grosse bête n'aura pas été foutue par terre, nous n'aurons pas la paix. Il ne faut pas croire que nous l'aurons dans des îlots, hein, ou alors dans des îlots tout, tout petits. Voilà. Et là, il me revient en tête ce que Machiavel écrit dans La révolte des Ciompi, où il parle du discours de l'un des leaders de la révolte, vous pardonnerez l'anachronisme, et qui harangue ses camarades en leur disant « Écoutez, il faut s'organiser vite, triompher de préférence, parce que sinon le truc va se refermer sur nous et ça va être impitoyable. » Et je vous signale que c'est exactement aussi en ces termes que se pose la situation stratégique des Gilets jaunes à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est qui tout double. Hein, l'appareil d'État est en train de se refermer avec une brutalité inouïe. Il a terrorisé, puisque c'est lui qui terrorise. Moi, je serais assez prêt à parier que, à relativement brève échéance, sous pression des syndicats de la flicaille, le fait de tourner, tu vois, de tourner avec un smartphone des policiers, ça deviendra illégal. Et alors là, on l'aura dans le baba, mais jusqu'à la garde.
Petit point technique, ça n'est pas illégal, mais la réplique, elle est arrivée assez vite. Elle est arrivée en décembre d'abord sur les photographes professionnels, et ensuite à partir de mars, où personnellement j'ai constaté parmi les blessés, les gens ciblés, c'était avant tout des vidéastes, des gens qui avaient des téléphones, etc. Donc ça, c'est très clair. Et dans le même temps, des autorisations préfectorales pour les policiers pour se cagouler, pas de matricule, etc., etc. Alors que tout ça, normalement, les cagoulés qui étaient éventuellement autorisés, par exemple, c'était ceux qui étaient venus à Tarnac il y a 10 ans. C'est l'antiterrorisme. Eux, d'une certaine manière, avaient le droit de porter une cagoule. Mais pas... Je sais que par ailleurs, on peut parler de tout ça. Mais voilà, donc la réplique pour l'instant, et effectivement, il y a déjà eu des demandes de syndicats pour faire en sorte que ça s'arrête le filmage et la diffusion. Mais pour l'instant, c'est absolument légal, autorisé, et je vous invite. Alors, franchement, 9 fois sur 10, quand une vidéo est supprimée, elle est supprimée par l'utilisateur. Elle n'est pas supprimée par Facebook ou Twitter. Réellement. Parce que justement, il y a la peur. Il y a des gens qui filment, qui diffusent, et puis qui se rendent compte que tout d'un coup, ça fait le buzz, le tour de la planète, ou en tout cas, ils ont ce sentiment que parce que tout d'un coup, ils ont une affaire qui retire. Donc il faut sauvegarder, voilà. Bon, là on est dans des petits détails, quoi.
Ouais, juste pour rebondir sur le smartphone et l'inversion, c'est évident que dans un régime panoptique, et Foucault l'avait très bien expliqué, c'est il faut voir sans être vu, voilà. Et celui qui a la position stratégique qui lui permet de voir sans être vu a gagné. Voilà, donc les policiers essayent de ne pas être vus, perçus, d'avoir un numéro de matricule, eux ils peuvent mettre les cagoules, eux ils ont le droit de tout ça, ils ont le droit à la clandestinité, mais pas nous. En tout cas, ils essayent de retrouver le régime de visibilité maximum, bien que les Black Blocs avaient trouvé la parade, évidemment, en s'habillant totalement en noir. Pour revenir à ce que disait Frédéric Lordon tout à l'heure, moi j'ai envie de te poser une question, en fait, tout bêtement. C'est que c'est vrai que par rapport au régime extrêmement, non pas totalitaire, mais totalisant que constitue le capitalisme, c'est un régime qui a envahi quasiment toutes les sphères de la vie intime, relationnelle, de l'amitié, de l'amour, de la façon dont on pense, dont on jouit, dont on drague, dont on travaille, etc. C'est un régime qui s'est ainsi, bon, moi je le vois comme une eau, en fait, qui s'est introduit dans tous les intérêts de nos vies. Moi, c'est vrai que je suis arrivé à un stade où je n'imagine pas que la résistance puisse s'exprimer sous la forme d'une révolution unique, telle que la Révolution française reste le modèle, malheureusement, un peu faussé, un peu fake à mon avis. C'est-à-dire que justement, quand on est dans un régime moléculaire, individualisé, atomisé comme le nôtre, tu vas pas pouvoir mobiliser comme ça une masse qui va retourner le capitalisme d'un seul coup, qui va abattre la bête d'un seul coup. Donc c'est pour ça que moi, je pose cette espèce, c'est pas une théorie, c'est une image, j'ai envie de dire, de l'archipel, c'est-à-dire l'idée que, effectivement, si tu plonges comme ça au fond de l'océan, tu tires un peu comme ça sur la croûte terrestre, tu fais émerger comme ça du magma, et puis de ce magma, des îles vont commencer à sortir, et sur ces îles, des gens vont commencer à nager, à courir, à construire des choses, et que progressivement, effectivement, moi j'ai une sorte de logique d'archipel, je pense que c'est en piquetant comme ça progressivement la plaque d'argent du capitalisme, ou en tout cas en faisant émerger ces îlots sur l'océan généralisé du capital, que va commencer à se constituer quelque chose. Je n'arrive pas à voir théoriquement comment on peut procéder autrement. Mais ça m'intéresse d'avoir une vision alternative de ce que la résistance à ce régime du capitalisme qui est tellement totalisant peut produire.
Juste une seconde, je pense que Frédéric après développera tout ça, mais il me semble, moi, que la difficulté de ton point de vue, c'est que en parlant d'archipel, etc., il y a quand même un détachement de la réalité de la société qui est la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une société globale. Et il y a des questions d'échelle, c'est-à-dire que tu peux toujours faire des communes ou des îlots, etc. Mais il y a des questions qui sont immédiatement pratiques d'aujourd'hui que tu peux pas résoudre au niveau de l'îlot, que ce soit les questions des déplacements, des communications, les chemins d'affaires, que ce soit même celui de la production d'énergie, que ce soit celui, tu peux toujours faire une immense commune, le Limousin devient un îlot, mais la pollution continuera à arriver, le réchauffement planétaire, etc. Donc il y a un moment où il faut que on passe à une certaine échelle. Et moi, ce que j'ai trouvé de fascinant chez les jeunes, justement, c'est qu'ils étaient passés à une échelle qui n'était pas l'échelle de la commune, qui était à la fois... C'est ça qu'il y avait de fascinant et de bouleversant, c'est que c'était à la fois extrêmement local, extrêmement ancré dans des réalités locales, et en même temps, c'était à l'échelle du pays. Le malheur, c'est que c'est resté à l'échelle du pays. Ça a été effectivement... on a un peu fantasmé sur les gens. Il y a eu le modèle gilet jaune qui s'est un peu répandu un peu partout. Enfin, des gens ont mis des gilets jaunes. Mais ça, c'est resté extrêmement marginal ailleurs qu'en France, sauf en Belgique. Voilà, donc... Si tu veux, je pense que là, il y a eu l'apparition d'un mouvement qui n'était pas un mouvement de communauté locale, mais c'était un mouvement qui avait réussi à être à l'échelle de tout un pays. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a été aussi si férocement réprimé, parce qu'il a fait trembler le pouvoir.
J'intercepte, je te le redonne. Mais... il y a quand même un ancrage territorial très fort qui a donné de la puissance au mouvement. Et si je pense qu'il y a une leçon de ces dernières années, c'est que, et l'Azad l'a montré, c'est qu'ancrer sur un territoire et partir d'un territoire et déployer, alors moi c'est ça que j'appelle l'archipel, c'est-à-dire d'un petit îlot, l'Azad est un îlot, si tu regardes en tout cas de façon territoriale, même si l'Azad est corrélé et tissé avec énormément de choses autour, évidemment que ces îlots doivent être tissés ensemble, doivent constituer une étoffe, doivent communiquer, etc. Mais quand tu pars d'un site local comme ça, tu as une puissance qui est extrêmement intéressante, extrêmement ancrée, et je pense que c'était important. Mais j'arrête de parler.
Non, mais la ZAD a eu droit au blindé de la gendarmerie, quoi. Moi, je vais vous rappeler en quels termes le pouvoir saisissait l'expérience LIP en 1973-74. C'est Giscard, le distingué, qui avait dit au ministre de l'Industrie de l'époque « Ce truc va viroler tout le corps social ». C'est ça leur angoisse, c'est ça leur crainte. Ils ont raison d'ailleurs d'avoir peur. C'est des propositions désirantes dont le pouvoir d'attraction peut s'avérer considérable et en réalité insupportable pour le pouvoir, pour un pouvoir capitaliste qui veut imposer sa proposition à lui et n'en veut connaître aucune autre. Où l'on rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure sur les sophismes de la démocratie. Voter ce que... Votez ce que vous voulez, pourvu que ce soit Macron. C'est, vous voyez, c'est tout ça, c'est des déclinaisons du même schéma fondamental. Et donc, Alain, tu dis, je trouve le modèle de l'archipel, c'est très beau. Hein, j'aime énormément ou j'aimerais aimer. Mais tu vois, il y a ton hypothèse, il va y avoir l'archipel et puis... Non, mais moi, ce que je crois, c'est que l'archipel n'aura pas lieu. On ne le laissera pas faire. On ne le laissera pas se développer parce que c'est trop dangereux. Alors maintenant, je vais vous surprendre par mon archaïsme. Il est d'usage de dire que le grand soir est un truc, c'est une espèce de fossile d'une pensée politique ensevelie. Et moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Alors évidemment, des grands soirs, si j'ose dire, ils ne s'en produisent pas tous les quatre matins. Ah oui, mais ça, c'est certain. Mais... En effet, et c'est là que je rejoins Serge, les Gilets jaunes ont été un mouvement qui combinait alors le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les ancrages territoriaux extrêmement importants, mais qui ne faisaient pas juste l'archipel, c'est-à-dire dont la visée était le débouché à l'échelle macro-sociale, alors disons à l'échelle nationale, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui a fait sa force, qui a fait son inédicité. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Je veux dire, un truc qui vient défier le pouvoir. Et ça a été un quasi grand soir. Je vous signale que lors de l'acte 3, ou entre les actes 2 et 4, je veux dire, mais ils ont fait dans leur benne à l'Élysée, hein, et dans les ministères. Ils se voyaient vraiment déposer mais manu militari, et le coup d'après, ils faisaient gaffe à ce que ça ne leur arrive pas par les égouts, l'hélicoptère était par-ci, machin, etc. Je veux dire, ça, c'est un grand soir, hein. C'était pas de l'archipel. Bon, alors il se trouve que pour tout un tas de raisons stratégiques, etc., le grand soir n'est pas allé jusqu'au bout. Puis alors il y a des grands soirs qui vont jusqu'au bout, mais pas assez au bout du bout. Alors je veux dire, par exemple, les printemps arabes, ça a été des grands soirs. Je veux dire, un grand soir, c'est pas juste la soirée puis on rentre chez soi, vous êtes d'accord, hein. Ça peut être plusieurs soirs, quoi, voilà, d'affilée, hein. Bon, alors, ça a été des grands soirs. Puis c'est des grands soirs qui se sont finis comment? Je veux dire, comme d'habitude, hein, par une enculerie. Enfin, pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on avait déposé les occupants et on avait laissé le système institutionnel en place. Moyennant quoi, il a suffi que d'autres viennent et ils s'en trouveraient forcément pour que l'affaire soit faite. Donc ça, vous voyez, c'est le grand soir façon bombe à neutrons. Mais c'est pas bien. La bombe à neutrons, vous savez, ça tue les occupants et ça laisse le bâtiment intact. Non. Il faut la vraie bombe, la grosse, quoi, qui écrabouille tout. Et s'il n'y a pas une énergie politique, alors évidemment, c'est ça le problème, hein, bah oui, s'il n'y a pas une énergie politique suffisamment puissante, pour ne pas dire colossale, capable d'aller au bout du bout, c'est-à-dire de leur foutre la trouille, de les chasser, et en même temps de renverser tout le système institutionnel et d'opérer une construction à neuf dans les incertitudes qu'on sait, avec les risques qu'on sait, puisque même la tabula rasa n'est pas indemne du risque de recapture. On sait très bien ça, hein. Bon. Mais s'il n'y a pas ça, condition nécessaire, il n'y aura rien. Et moi, je pense, c'est ça, moi, mon avis, si vous voulez, c'est que en 3 décennies de déplacement normatif, le capital s'est installé dans une position d'intransigeance radicale qui le rend définitivement incapable à toute transaction, toute négociation, tout compromis, etc. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les syndicats se ridiculisent. Ils pensent négocier avec un partenaire, puisque c'est bien connu, hein, on est des partenaires sociaux, hein, tous partenaires, c'est sympa. Ils pensent négocier avec un partenaire dont ils pourraient obtenir quelques concessions dans la transaction, et ils ont en face d'eux quelqu'un qui ne lâchera plus un pouce de terrain. Forcément, qui a eu l'habitude de conquérir acquis après acquis en rentrant là-dedans comme dans du beurre. Je vais vous dire, ils ont contracté une habitude, hein. C'est fini. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec Hollande au tout début. Je veux dire, les start-upers là, qui arrivent, on veut leur relever la fiscalité sur les plus-values de cession, puisqu'évidemment, ils ont le désir d'entreprendre, ça va sans dire. Mais enfin, ils ont surtout le désir de la culbute en bourse au bout du compte, hein, n'est-ce pas? Bon, et ils se sont mis à gueuler comme des putois. Voilà. Et puis alors, ils se sont fait appeler les pigeons parce que c'était plus drôle. Évidemment, le gouvernement Hollande a reculé dans la quinzaine. Vous voyez, c'est ces gens-là qui en face. Donc avec ces gens-là, moi, ce que je crois, hein, c'est qu'il n'y a plus... C'est pour ça que la social-démocratie sombre, coule à pic avec tout son appareil. C'est parce qu'elle croit qu'il existe encore un espace intermédiaire entre le statu quo et le capital qui va continuer d'avancer comme un bulldozer, etc. Cet espace intermédiaire n'existe plus. Il n'existe plus. Donc maintenant, là aussi, c'est qui tout double. C'est-à-dire, ou la chape se referme, ou tout doit être foutu par terre. Tant que tout ne sera pas foutu par terre, ça continuera en s'aggravant. Voilà, c'est ça la situation stratégique. Et pour en sortir, oui, il faut ce rassemblement de forces absolument considérable et qui n'est pas seulement de type archipélagique. Enfin, évidemment que tous les archipels se développent, moi, c'est merveilleux. Mais ça doit déboucher sur autre chose, sur du gros, vous voyez, sur du lourd.
Bon, donc l'heure tourne. On peut peut-être laisser la parole à la salle. Au lieu de finir à 21h, donc on va finir à 21h30. Il faut prévenir notre amie Sophie que ça va se faire plus tard que prévu. Qui veut prendre la parole là ?
Moi, je voudrais juste demander aux intervenants de ne plus parler des gilets jaunes à l'imparfait, s'il vous plaît. Parce que les gilets jaunes ne sont pas morts, ils bandent encore, comme dirait Brassens.
Voilà une intervention roborative. Qui d'autre voudrait dire un mot, là ? Parce que après, oui.
Ça, par rapport à la furtivité de Christian, peut-être à l'intervention, je ne sais pas. Mais, en fait, vous disiez, oui, les actes de résistance, on doit rentrer dans la furtivité, mais il me semble qu'un des actes les plus importants de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le défilé d'Oyonnax, il me semble, c'est ça, où la résistance a défilé à la vue de tout le monde en chantant la Marseillaise avec le drapeau français. En fait. Donc voilà, c'est par rapport à la furtivité.
Non, mais c'est évident que d'un point de vue tactique et stratégique, la temporalité des actions est fondamentale. Il y a des moments où il faut se montrer, mais il faut se montrer au bon moment. Si tu te montres au mauvais moment, tu te fais massacrer. Puis il y a des moments où il faut se cacher. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a... Et c'est très compliqué d'avoir ce sens du tempo, je pense.
Et moi, je voulais simplement signaler au sujet de la furtivité, de comment être furtif. Bon, moi, je suis tout à fait dans cette idée aussi que si on veut être efficace, il faut abattre de manière assez radicale les choses. Mais simplement pour ça, il y a des points tactiques inévitables. Un des points tactiques pour moi, c'est déjà d'attaquer les caméras qui nous surveillent en permanence. Alors moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'habite à Nice. Nice. Voilà. C'est rigolo, ça suscite toujours ce genre de réaction. Et je vais rester à Nice parce que non, voilà, je vais pas partir. Ok. Non, mais simplement, voilà, là-bas, c'est, ouais, ça va. Je suis là. Déjà, je respire un peu là ici. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là-bas, c'est un laboratoire. Et je voulais juste signaler que pour les gens qui connaissent pas bien la région, faut être vigilant parce qu'on n'est pas égaux territorialement là sur les logiques de surveillance. On voit bien que, par exemple, l'affaire Geneviève Legay, c'est pas forcément un hasard si ça s'est produit à Nice. Il y a, voilà, ça, c'est l'histoire du lieu qui fait que ça arrive là. Je pense à Nantes aussi, on en parlait ce matin. L'histoire de Steve, c'est pas du tout un hasard que ça se produise là-bas. Bref, il se passe des choses sur les territoires. Et là-bas, en l'occurrence, si on met le focus sur la surveillance, il se passe des choses graves. Juste un exemple. En janvier 2018, un prototype de nouvel outil de surveillance a été proposé qui s'appelle Reportive. Je ne sais pas si vous connaissez cette techno. Alors, ce truc-là, en deux mots, c'est une appli qu'on télécharge sur son smartphone et qui permet de filmer lorsqu'on est témoin d'un acte criminel dans la rue, quoi. Enfin, en tout cas, qu'on estime être criminel. On le filme et en fait, cette appli, elle est directement reliée à la police. Donc on est connecté, quoi. Donc vous voyez la logique qu'il y a derrière, qui est assez abominable. Donc on devient une sorte d'auxiliaire de police dans une logique de délation, etc. Mais ça, c'est pas un projet dystopique. On n'est pas d'Amaziesque, quoi, je veux dire, si je peux me permettre. Là, c'est la réalité. C'était en 2018 et ça se passe en France, à Nice. Donc il faut pas fermer les yeux sur Nice, quoi. Il faut observer attentivement Nice. il faut même y aller dedans, quoi. C'est-à-dire, non, mais je veux dire... Bon, voilà, il y a les cartes postales, sinon... bon, bref. Voilà, je voulais juste donner ce petit témoignage et voilà, et dire que c'est important de s'intéresser à ce qui se passe dans des territoires comme ça. Ouais, je suis très étonné que peu de gens soient au courant de cette appli Reporti. J'ai plein d'autres exemples si ça vous intéresse. Reporti, je reporte, je suis policier, citoyen. Et après, je suis peut-être noté d'ailleurs, comme dans les furtifs, je suis évalué en fonction de ma citoyenneté, un peu comme ça se passe en Chine d'ailleurs, ça c'est pas dystopique non plus. Mais... Enfin bref, il faut surveiller ça quoi.
Bon, encore une question, puis on va être obligé d'arrêter parce que l'heure tourne. Après, je vous conseille vivement d'aller à Fontmaker pour assister à la performance de Sophie Roussel. Et de toute façon, on va tous se retrouver, enfin ceux qui en ont envie vont se retrouver en bas pour participer aux agapes que vous propose les écrits d'août. Vous aurez l'occasion de bavarder de manière plus informelle avec les présents. Donc je prends encore une question. Il y avait, je suis désolé, mais le monsieur a soulevé la main, le premier.
Je vais peut-être la poser comme ça.
Oui,
alors, je vais parler assez fort. Quand la Ligue communiste révolutionnaire a changé d'appellation, vous savez, nouveau parti anticapitaliste, ils ont effectivement fait le choix de quitter la revendication communiste pour centrer leur revendication sur l'anticapitalisme. Et il me semble. Ça peut être une erreur, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appeler de façon urgente à la rupture avec le système pour provoquer cette rupture. Ne serait-ce que parce que c'est l'intelligence sociale, au sens même du premier socialisme français du 19e siècle, c'est constituer les uns avec d'autres types de relations qui passaient par le fait d'accéder à une certaine exigence, une certaine lenteur, une certaine intelligence de l'autre qui ne peut pas se faire dans des logiques de précipitation. De précipitation au sens d'un simple appel à la rupture. Et il me semble que ce qui est important quand même dans cette histoire des archipels telle que je la comprends, c'est aussi de se changer soi-même, de changer son rapport aux autres pour instituer un autre rapport social. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est évidemment une question et aussi une position entre vous, mais compris. Mais il me semble important quand même de le dire.
Merci de cette intervention d'un damasien qui t'a bien compris. Bon, si vous voulez bien, on va s'arrêter là.